Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports, et on commence bien avec les Jeux Olympiques qui se sont terminés ce week-end en Chine, donc à Pékin. Jeux Olympiques avec un très bon résultat pour les Français, notamment de Quentin Fillon-Maillet et du biathlon français qui rapporte la moitié des médailles pour le clan France. Christophe Diramsian.
Oui, 14 récompenses au total, 7 en biathlon. La proportion souligne la dépendance du monde des sports d'hiver à l'égard d'une discipline qui, rappelons-le, ne possède que quelques centaines de licenciés en France et qui continue d'entretenir cette excellence malgré la retraite de Martin Fourcade. Le ski alpin a aussi sa part dans ses résultats avec 3 récompenses, dont l'or pour Clément Noël en slalom. Le ski acrobatique et le snowboard également avec Tesla 2 et Chloé Trespeuch. En revanche, exception faite de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron, eh bien, les sports de glace restent loin du niveau à atteindre pour espérer jouer un podium. Pour la présidente de la Fédération française des sports de glace et chef de mission sur ces Jeux olympiques, Nathalie Péchala, il va donc falloir réfléchir sérieusement à une nouvelle politique sportive et budgétaire pour ces disciplines, car pour l'instant, ça manque de cohérence.
On est dispersé. Quand je parle de moyens, je parle de moyens humains, je parle des moyens financiers, des moyens aussi en termes d'équipement, où on peut être mis à rude épreuve pour les patinoires, les haltes de curling qui sont quasi inexistantes, la piste de bob qui coûte un bras. Donc en fait, il va falloir qu'ensemble, c'est-à-dire avec l'agence du sport, se donner des objectifs. Et d'ailleurs, quels sont-ils ces objectifs? Est-ce qu'on cherche de la haute performance? Est-ce qu'on cherche à développer les sports et à avoir beaucoup plus de licenciés? Et en fonction de ça, oui, moi je suis assez d'accord pour un plan Marshall, ça va faire mal, ça va être dur parce qu'on peut pas être bon partout. Chaque pays s'est positionné sur des disciplines maîtresses et je pense qu'il est temps pour la France de faire ce travail qui va être compliqué mais nécessaire si on veut augmenter l'enclassement des médailles.
Prioriser les disciplines à potentiel de médailles mais dont les athlètes sont encore souvent obligés de se débrouiller pour vivre et participer à des compétitions, ce sera sans doute le prix à payer pour espérer voir un jour des Français défier les Allemands en bobsleigh ou les Néerlandais en patinage de vitesse.
Voilà donc. D'ailleurs, faisons un point sur les grands gagnants de ces Jeux Olympiques, toujours avec Christophe Diramsian.
Le même duo de tête, Norvège et Allemagne, 37 médailles, dont 16 en or pour les Scandinaves, tout en haut du tableau d'honneur devant la délégation allemande qui repart de Chine avec 27 récompenses, dont 12 en or. Le seul pays à ne pas être remonté sur le podium, c'est le Canada qui a plongé littéralement la 11e place du classement, faute d'avoir gagné beaucoup de médailles d'or. Et c'est la Chine qui en a profité pour prendre cette 3e place, 15 médailles dont 9 en or, c'est le nouveau record du pays hôte dans des Jeux d'hiver. On imagine le malin plaisir que ça doit procurer au régime de Pékin d'avoir devancé les Américains qui ne sont que 4e. Les Chinois auraient eu une autre raison de narguer les États-Unis. Cette raison, c'est Eileen Gu, la star incontestée de ces JO avec ses 3 médailles dans 3 disciplines différentes, 2 titres en big air et en halfpipe et l'argent en slopestyle du jamais vu. Surtout à 18 ans, le jeune âge de cette prodige née en Californie, on le rappelle, devenue très médiatique et très populaire, et c'est exactement ce qu'elle souhaitait car elle veut inspirer cette jeunesse peu au fait des sports d'hiver.
Mon principal objectif a toujours été de populariser le sport auprès des filles et particulièrement le ski freestyle car je veux augmenter sa visibilité. J'ai toujours espéré qu'une jeune fille qui voit cette discipline pour la première fois à la télé, quand j'en fais, se dise « Waouh, elle me ressemble, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire ». Alors oui, à cet instant précis, ces médailles sont pour moi la meilleure chose au monde. Mais dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, le vrai nouveau monde viendra de la création de changements positifs dans la société. Et c'est quelque chose qui restera en moi pour toujours, davantage qu'un sentiment sur le moment. Je me sens très honorée d'avoir un rôle dans cette évolution, d'essayer de faire du monde un meilleur endroit. Et si j'arrive à faire changer le comportement ne serait-ce que d'une jeune fille, j'aurai atteint mon but.
Eileen Gu, promise un avenir radieux dans ce monde du freestyle, et qui aura marqué ses jeux par son talent au même titre que d'autres athlètes qui ont formé ce qu'on pourrait nommer le club des 5, ceux qui ont empoché 5 récompenses, le fondeur russe Alexandre Bolchunov et 3 biathlètes, le norvégien Jonas Bø, sa compatriote Marte Olsbu-Rojland et bien sûr Quentin Fillon-Maillet.
Christophe Diramsian donc. Alors on va d'ailleurs rester sur l'olympisme et Martin Fourcade qui a été élu à la commission des athlètes du comité international olympique. On l'écoute.
C'est une très belle marque de confiance, c'est aussi une grande responsabilité, en tout cas moi je le vois comme ça. parce que je crois que les athlètes m'ont aussi élu pour des valeurs et ont envie que je garde ces valeurs-là et cette liberté de ton et de parole au sein du mouvement olympique. Donc oui, c'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité.
Tony Estanguet vous a précédé dans ce rôle de membre de la commission des athlètes. Est-ce que vous lui avez demandé un petit peu en quoi consistait précisément ce rôle ?
Bien sûr, j'en ai parlé avec Tony, comme j'en ai parlé avec les autres membres français du CIO avant de m'engager dans cette candidature. C'est un rôle qui a plusieurs facettes, en tout cas particulièrement auprès des athlètes, d'arriver à porter leur message au sein de l'institution olympique. On est attendu pour ça en tant que représentant des athlètes, mais c'est aussi un rôle plus global en tant que membre du CIO qui est celui de prendre les grandes orientations pour le mouvement olympique et de donner les orientations qui feront les Jeux de demain.
C'est une candidature qui part de loin, puisque dès la fin de votre carrière et même avant, dès la fin des Jeux de Pyeongchang, vous aviez manifesté votre envie d'être membre de cette commission. Expliquez-nous ce cheminement jusqu'à cette élection.
C'est un choix que j'ai pris juste après les Jeux de Pyeongchang. Je savais que le mandat de Tony Estanguet qui m'empêchait de me présenter à Pyeongchang terminait lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc ça a été une candidature qui a été soutenue par le comité olympique français. Et c'est ensuite une démarche qui était un peu celle que j'avais en tant que compétiteur, c'est d'essayer de comprendre les règles du jeu, de voir ce qui pouvait faire la différence par rapport aux athlètes qui se présentaient contre moi, et ensuite de tout mettre en place pour essayer d'être élu. Donc oui, ça a été pas mal d'investissements ces derniers mois, mais c'était une belle aventure, et je crois que même si elle avait été négative, si elle s'était soldée négativement, ça aurait été une énorme richesse de pouvoir mieux connaître le mouvement olympique, de mieux comprendre comment il fonctionnait, et particulièrement sur les sports d'hiver, parce que j'ai eu la chance de voyager sur beaucoup de sports d'hiver en début de saison. Et ça a été une vraie richesse pour moi dans la compréhension de cet univers.
Vous n'avez pas fait formellement campagne, parce qu'on ne fait pas formellement campagne pour être membre de la commission des athlètes. Néanmoins, vous avez défendu auprès des athlètes un certain nombre de valeurs et de sensibilités auxquelles vous êtes particulièrement attaché.
Oui, j'ai pas fait campagne, je suis allé à leur rencontre, parce que si on veut les représenter, il faut un petit peu les connaître. Et ensuite, oui, j'ai essayé de rester moi-même et de simplement me présenter devant les athlètes avec le visage que j'ai pu avoir devant ma carrière, comme un athlète qui ose assumer ses convictions, qui a une liberté de parole et qui surtout a envie de faire évoluer les choses dans le bon sens.
Martin Fourcade. Allez, on parle maintenant de football et un point d'ailleurs avec les Français à l'étranger, et notamment Olivier Giroud qui cartonne littéralement en Italie, comme nous l'explique Matteo Cioppi.
Tout à fait, prenez note de cette phrase. Oliviero bomber vero, c'est-à-dire Oliviero buteur vrai. Buteur vrai, c'est la phrase qui depuis quelques mois prononce avec joie les tifosi du Milan. C'est pour rendre hommage à Olivier Giroud, devenu le préféré de San Siro, surtout après son magnifique doublé lors du dernier derby de la Madonnina. Giroud ne pouvait pas rêver mieux à Milan, et il faut le dire qu'il a su se faire apprécier dès le début, même en dehors du terrain. Un exemple, cet été, après être débarqué en ville pour signer son contrat avec le club rossonero, il a enregistré une vidéo de salutation aux tifosi en parlant en milanais, chose qui lui a valu la sympathie des supporters milanistes. Toujours souriant et de bonne humeur, l'attaquant français est considéré en ce moment un des principaux leaders de l'équipe, surtout sur le terrain, et où il n'arrête jamais d'inciter ses coéquipiers. Giroud, c'est aussi un téméraire. Il a accepté de porter le dossard numéro 9, qui, au Milan, après Pippo Inzaghi, n'a pas vraiment souri aux avant-centres. Mais Olivier, c'est un buteur vrai. Pour lui, toute compétition confondue, 10 buts en 24 matchs et 3 passes décisives, qui est jusque-là un bilan assez positif à sa toute première année en rossonero.
Voilà donc pour Olivier Giroud en Italie. Un dernier point de cyclisme pour conclure ce journal des sports. Laure Broulard nous parle du prologue du Tour du Rwanda.
Ils étaient plusieurs centaines à se masser ce matin devant la Kigali Arena pour assister à la première étape du Tour. Certains avaient revêtu le maillot de leur équipe préférée. Etienne Guerrero est quant à lui venu avec son vélo. Et il est particulièrement fier cette année puisque son pays accueillera bientôt les championnats du monde de cyclisme.
C'est le bonheur, c'est comme une couronne d'accueillir cette tournoi du monde. Il y a tant de pays qui ne peuvent pas avoir cette chance. Alors, nous disons merci pour Dieu pour que dans ces 3 ans, on va recevoir cette compétition.
C'est qui votre coureur préféré cette année ?
L'enfant du quartier qu'on appelle Mugisha Samuel. Je suis le fan de lui. Même il ne joue pas dans l'équipe rwandaise. Il joue dans l'Afrique du Sud.
Malgré la forte pluie, une partie du public est restée en place.
Je m'appelle Jean-Claude. On est venu assister malgré le climat qui est là. Mais on est là, on est content. Il y a beaucoup de monde, il y a tout le monde qui est venu.
Et est-ce que vous pensez que le Rwanda est prêt pour accueillir les mondiaux dans 3 ans?
Oui. On a les infrastructures, on a tout. On a les autorités qui encouragent le sport différent.
Les futurs mondiaux de cyclisme braquent donc les projecteurs sur cette 14e édition du Tour du Rwanda. Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO, a ainsi été invité par l'ambassade de France à venir assister aux 2 premières étapes. Les organisateurs n'ont donc pas droit à l'erreur. Olivier Grandjean, directeur technique et sportif de la course.
C'est une pression supplémentaire. Comme chaque année, de toute façon, on se met nous-mêmes la pression. Et c'est vrai que ces éléments extérieurs nous poussent encore à essayer d'être parfaits.
D'ici 2025, les défis sont nombreux. Logistique, accueil du public et des participants pour ce qui sera le plus grand événement jamais organisé au pays des Mille Collines. Mais pour la Fédération rwandaise de cyclisme, la priorité numéro 1 est de former une nouvelle génération de champions.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.